Boomerang avec l'acteur belge Mathias Schoenaert que vous avez vu chez Paul Verhoeven, Jacques Audiard, Thomas Vinterberg. Il est époustouflant de sauvagerie et d'humanité dans le premier film de Laure de Clermont-Tonnerre, sélectionné au festival de Sundance, ça s'appelle Nevada. Mathias Schoenaert est dans Boomerang, c'est parti. L'idée d'une renaissance sauvage, c'est un papier dans le journal Marianne, signé de l'universitaire Guillaume Loger, qui a attiré mon attention avant-hier et qui m'a incité à me plonger dans son livre, intitulé justement « Renaissance sauvage ». Il y rappelle ce qu'est la renaissance dans l'histoire et dans la philosophie, c'est-à-dire un moment où émerge une nouvelle vision de soi et du monde. Ce qui se joue pour Guillaume Loger en ce moment, et c'est assez passionnant, entre les marches pour le climat, l'avancée des partis écologistes, la prise de conscience de l'opinion publique dans le monde entier, c'est une renaissance sauvage. Pour reprendre son expression, qui prend acte des échecs du capitalisme et qui s'avance dans la joie vers une reconnexion avec le milieu que l'on habite et l'être animal qui est en nous. Non plus dans une dynamique de conquête de la nature jusqu'à l'épuisement, mais de conscience qu'il s'agit là de ce qu'on est essentiellement. Dans ce renversement, qu'on ne nommera pas révolution mais renaissance, il s'agit de se penser autrement, de fonder une civilisation nouvelle qui nous rassemble au-delà de toute différence. Guillaume Loger note bien dans son essai comme les arts sont visionnaires et pose déjà les jalons de cette nouvelle civilisation. Saurez-vous trouver le créateur sauvage qui sommeille en vous ? Saurez-vous le réveiller ?
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Qu'y a-t-il de plus sauvage dans mon invité d'aujourd'hui ? Lui qui, depuis ses rôles dans Bullhead, De rouillé d'os ou Blood Ties, est devenu l'un des visages les plus attirants et ténébreux du cinéma international. C'est dans Nevada, l'étonnant premier film de Laure de Clermont-Tonnerre, qu'on le retrouve la semaine prochaine. Il y joue un détenu qui, au contact d'un cheval sauvage, d'un Mustang, va apprendre à dompter sa propre violence. Bonjour Mathias Schoenaert.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Avec plaisir.
Ce matin, avant toute chose, qu'est-ce que ça vous évoque à vous, la création sauvage, le sauvage, tiens?
Moi, j'aime bien l'idée sauvage d'être sincère, sans filtre, d'être direct, d'être honnête.
Vous avez travaillé avec un être sauvage. Comment est-ce qu'on apprivoise un animal sauvage, tiens?
Oui, il faut avoir de l'attention pour l'animal. L'écoute, l'attention, le regard. Pas essayer d'imposer quoi que ce soit. Il faut vraiment être... voilà.
Qu'est-ce qu'il y a de plus sauvage en vous, à votre avis? Qu'est-ce que vous ne maîtrisez pas? Qu'est-ce qui vous échappe?
C'est très difficile de s'auto-juger, donc je sais pas. J'ai tendance. Qu'est-ce qui m'échappe? Ben il y a plein de choses qui m'échappent. Ah ouais, il y a plein de choses qui m'échappent. Mais c'est difficile à mettre le doigt.
Vous avez conscience quand même que si vous avez été choisi pour ce rôle, ça doit être parce que c'est ce que vous évoquez un peu, la sauvagerie. Dans quelles circonstances est-ce que vous avez le sentiment d'être rattrapé par vos instincts, vous?
Bah, tout le temps.
Ah, c'est vrai?
Ouais, je pense. Ouais.
Vous êtes pas trop dans le contrôle?
Bah, c'est un équilibre très très fragile, disons.
Quand vous incarnez un personnage en tant que comédien, l'instinct, c'est un allié pour vous?
Ah oui, forcément. Je pense que dans le jeu, c'est pour ça qu'on appelle ça le jeu, ça doit être impulsif, ça doit venir de l'instinct. La prépa, on l'a fait en sorte pour que quand on joue, l'instinct, il peut ressortir. C'est comme un joueur de foot, il s'entraîne, mais quand il est dans le match, ça doit être spontané.
Alors ça implique qu'il n'y ait pas beaucoup de prise, si?
Si, mais il faut essayer à chaque fois
de retrouver l'instinct à chaque fois.
D'essayer, bien sûr.
Nevada, c'est donc l'histoire d'un détenu qui, par un programme de réhabilitation centré autour du dressage des chevaux, va réapprendre à vivre. C'est donc le récit, en fait, de deux êtres sauvages et captifs qui vont s'apprivoiser l'un l'autre. De quoi cet animal, le Mustang, est-il le symbole pour vous? Qu'est-ce qu'il nous raconte?
Bah, il est le symbole de l'état sauvage dont on venait de parler, de la sincérité, et d'une beauté aussi, et d'une tendresse. À un certain point.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, au contact de cet animal, en le touchant, en plongeant votre regard dans le ciel?
Il y a un océan d'émotions différentes. Parce que moi, j'étais pas très... Moi, je connais les chevaux, mais pas... Voilà, pas à ce niveau-là. Donc, ouais, j'ai eu la peur, j'ai eu la fascination, j'ai eu des émotions très profondes, la tendresse, la douceur, l'amour.
C'était le même cheval, évidemment?
Non, on en avait trois. Parce qu'il nous fallait trois chevaux, un qui était vraiment encore sauvage, un qui était demi-sauvage et un qui était très très docile, disons.
Et alors le sauvage et le demi-sauvage, vous avez l'impression de les avoir rencontrés, de les avoir un peu apprivoisés, Mathias Schoenaert?
Ouais, j'aimerais bien me raconter cette histoire.
Quel partenaire de jeu est-ce qu'ils ont été, ces chevaux?
En fait, les meilleurs, parce qu'ils anticipent pas, ils sont vraiment à chaque fois, ils sont là, ils sont présents, ils sont sincères. il te regarde.
À vous entendre, le comédien doit être sauvage. Alors.
Non, un comédien, on doit rien. Il faut juste essayer d'être vrai, voilà. Mais en face d'un animal, voilà, c'est un cadeau parce que l'animal, il incite à ça.
C'est ça un bon partenaire de jeu pour vous en tant qu'acteur? C'est quelqu'un de vrai?
Ouais, absolument.
On en trouve beaucoup?
Ouais, je pense, ouais, il y en a quand même pas mal, ouais. Mais c'est aussi comme ça dans l'amitié, c'est dans la vie, c'est dans l'amour, c'est la vérité qui compte.
Et vous le savez tout de suite, ça?
Non, bien sûr que non, on peut se tromper. Ah ouais, on peut souvent se tromper, dommage, moi.
All right. Now just stay there. That's it, easy. Please stay there. Please, come on. Come on, please. Come on, stay there, man! Just fucking listen to me! Do you hear me? I'm not gonna hurt you! You hear me? You hear me, you stupid animal!
C'est au contact d'un cheval Mustang, Mathias Chenard, que votre personnage va parvenir à dompter sa violence, surmonter ses démons. Ces programmes de réhabilitation par le cheval, ils existent. En quoi le contact avec le cheval est-il bénéfique pour un détenu? Qu'est-ce que vous avez appris sur ces programmes, en fin de compte?
Je pense que la vie en prison, c'est un univers de survie. Et la plupart des gens, ils survivent à travers la violence, la domination, la manipulation. C'est des énergies très très négatives, disons. Et je pense que le cheval, il vous force d'avoir de l'attention pour lui.
Mais quand on s'apprête à incarner un détenu, quelqu'un qui a passé plus de 10 ans derrière les barreaux, souvent en isolement, comment est-ce qu'on se prépare? En fin de compte, on les rencontre, ces détenus, Mathias?
Ouais, on est partis aux États-Unis, Laure et moi.
Laure de Clermont-Tonnerre, la réalisatrice du film.
Absolument, on est partis aux États-Unis. On a visité 3 maximum security prisons, des prisons...
De haute sécurité.
Voilà, exactement. On a passé beaucoup de temps avec des prisonniers, juste pour ressentir, pour écouter leurs histoires.
Et face à eux, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Oh, plein de choses, c'est très complexe, c'est très énorme. Mais à chaque fois, on voit que la plupart des histoires reviennent toujours à des histoires de déséquilibre, de désharmonie dans la famille. Ils viennent toujours des endroits de douleur, de sorte de déséquilibre profond qui se manifeste plus tard dans leur vie, d'une façon, voilà.
Mais vous, en tant que personne étrangère, quand vous débarquez dans cet endroit, vous ressentez quoi? Une certaine gêne, parfois, face à eux?
Non, pas forcément une gêne. On est remerciant du fait qu'on peut témoigner ce genre d'intimité, parce que c'est quand même vachement intime de rentrer dans cet univers, d'avoir ces personnes-là exprimer leur passé. Donc on est remerciant. Après, on est là pour en faire un film et pour qui fait comprendre aux gens que même dans cet univers-là, on est plus humain que criminel ou quoi que ce soit.
Alors le lieu est très important dans le film Nevada, bien sûr. Tourner en prison, c'est pas tourner n'importe où, je suppose. Ouais. Quel effet est-ce qu'il a eu, ce lieu, sur vous?
Bah, il amène beaucoup de texture, il amène beaucoup d'authenticité. En plus, c'était la prison la plus... Ouais, je pense la plus vieille prison des États-Unis, la Nevada State Prison.
Oui.
Donc c'est pas une facilité moderne. Donc il y a quand même... Il y a un aspect...
Forteresse, hein.
Ouais, absolument.
Il paraît que vous vouliez pas que le tournage s'éternise en prison quand même.
Ah, comme ça, ouais, non. Mais les premiers jours qu'on était là, je me dis, ah ouais, c'est fascinant, mais après quelques semaines, je me dis, c'est glauque ici. Ah non, vraiment. Cet endroit, il a absorbé tellement d'énergie, et c'est une énergie qu'on termine par ressentir, c'est clair.
Et en même temps, c'est effectivement le lieu de la privation de liberté, la prison. Et pourtant, on voit votre personnage se libérer. La liberté d'un homme, au fond, ça se joue à quoi pour vous?
Après, je pense pas qu'il se libère. Je pense qu'il se retrouve au début du chemin du changement. Laure et moi, on voulait pas en faire une fin Disney où voilà, un mec à travers un rapport avec le cheval, il est complètement transformé. Ce serait un peu trop idyllique ou idéaliste.
Donc, mais on voit un processus de libération quand même.
Ouais, absolument. Il y a quelqu'un qui commence à se transformer, qui commence le chemin.
Alors, qu'est-ce qui le rend libre? Qu'est-ce qui nous rend libre pour vous?
Qu'est-ce qui nous rend libre? L'amour.
L'amour?
Ouais.
Ben oui, je vous pose la question parce que je vous ai déjà entendu dire que l'amour, effectivement, c'est le dénominateur commun de tous les personnages que vous avez incarnés jusque-là?
Ah bah, je veux dire, parce que je pense que de façon directe ou indirecte, ou de façon explicite ou implicite, toutes les histoires sont des histoires d'amour. Ou ça part du manque d'amour, ou l'amour interdit, l'amour impossible.
Du moins, c'est comme ça que vous les lisez, vous, Mathias Chenard.
Ouais, peut-être c'est ma façon d'interpréter la chose. Donc, je sais pas ce que ça dit par rapport à moi. Mais,
Vous êtes un amoureux.
Ah,
tout
voilà. Mais je pense qu'à la fin, c'est toujours ça, ouais.
Des personnages, en tout cas, depuis le succès de Bullhead, du Belge Michael R. Roskam, et du film de Jacques Audiard, de Rouillé d'Os, vous en avez incarné de beaux, de très beaux.
Tu sais, j'ai tout compris, hein, je sais ce que t'as fait. Vous êtes tous des bêtes.
Soms kan het zijn dat er in een mensenleven zaken gebeuren, moet dat iedereen stil van blijven.
Bullhead, le premier film du Belge flamand Michael R. Roskam. Avec un incroyable Mathias Schoenaerts dans le rôle de Jackie alias Tête de Taureau et son besoin de testostérone. Avec donc ce Mathias Schoenaerts qui a pris 27 kilos de muscles pour ce film.
Attends, tu m'étrangles.
Tu files combien pour faire ça?
Je sais pas. 500, 1000. Ça dépend si je gagne.
Tu ferais ça pour 500 euros?
Bah ouais.
Tu te fais défoncer la gueule, mettre des coups sur la gueule comme ça, risquer ta santé pour 500 balles.
Risquer ma santé, ça va, t'excites pas. Tu chies là. Je fais pourquoi? Je fais pour me battre, pour le fun. C'est comme toi, sur tes poissons, tu faisais pourquoi? Tu faisais pour le fun. Ah bah, pour le bonheur et pour le fun.
Et le César est attribué à Mathias Schoenaerts dans De Rouillé d'Os.
Il joue un père fauché venu s'installer avec son fils et sa sœur en Antibes, où il va tomber amoureux d'une dresseuse d'orques amputée après un accident. C'est le premier comédien belge à remporter ce prix. Audiard voulait au départ prendre un acteur non professionnel et son directeur de casting, Richard Rousseau, lui a montré le film Bullhead qui est nommé ce soir. Et c'est là que Jacques Audiard a choisi Mathias Schoenaerts.
On va se baigner. A bigger splash. Check it out, it's pretty beautiful.
God, I am so happy to see you.
It's the Kursk. Something happened.
Mathias Schoenaerts, tout compte fait, pourquoi vous êtes devenu comédien? Vous le savez?
Je sais même pas encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, je sais pas. En fait, je sais pas. J'ai commencé mes études à la dramatique dans une période assez compliquée de ma vie. Mais j'ai pas commencé en ayant une ambition de devenir comédien, en fait. J'avais envie de plonger dans cet univers à ce moment-là dans ma vie. C'est autre chose que d'avoir l'ambition de devenir comédien.
Qui était l'univers de votre père, Julien Schoenaerts, qui était un des acteurs flamands les plus célèbres de sa génération.
Exactement. Et moi, en fait, quand j'étais jeune, je voulais avoir rien à voir au métier de comédien.
C'est vrai?
Rien.
Alors, quel a été le déclic?
C'est une histoire assez inspirante, mais aussi assez triste. Mon père s'est retrouvé dans le coma. Depuis quelques années, je le parlais plus, je le voyais presque plus. Il s'était retrouvé dans un centre psychiatrique. Là, on l'a maltraité. Ah, mais je vais pas dire maltraité, mais on lui a donné des mauvais médicaments, soi-disant, mauvais traitements. Il s'est retrouvé dans un coma et il a failli mourir. Et là, ça a déclenché en moi un désir de pas le perdre. Et à ce moment-là, je me suis dit, parce qu'il allait vraiment mourir. On avait dit, voilà, le docteur m'avait dit, il va dormir. Il va dormir éternellement. Non, il va mourir d'ici 24 heures. Et donc, je me suis pris un gros trip, parce que là, je me suis réalisé qu'en fait, cette personne à qui je parlais plus depuis des années, que je l'aimais profondément. Et tout à coup, je me suis dit, comment je peux me rapprocher de lui? Imaginons qu'il va mourir. Comment je peux me rapprocher de lui? Je dois faire ce qu'il a fait. Et donc, je me suis inscrit au conservatoire d'art dramatique.
Vous aviez vu tous ses films?
Ah non, pas du tout.
Quel acteur est-ce qu'il était?
Mais mon père, c'était plus un comédien de théâtre. Pour lui, le théâtre, c'est là où il existait, c'est là où il vibrait en tant que comédien. Pour lui, il disait toujours, le cinéma, j'aime bien, mais c'est un peu les vacances.
Et qu'est-ce que vous avez hérité de lui, Mathias? Qu'est-ce qu'il y a de lui dans l'acteur que vous êtes devenu, à votre avis?
Ah, j'ai aucune idée.
La passion, quand même?
Ouais, la passion, je pense, ça je peux le dire. Mais mon père, c'était vraiment un comédien d'un talent hors norme. C'est un phénomène, c'est un comédien. Et je le dis pas parce que c'est mon père, mais c'est vraiment, c'est le genre de comédien ça se voit une fois tous les 50 ans. Vraiment, c'est...
Ah, c'est émouvant de vous entendre dire ça.
Non, mais c'est vrai, c'est juste, c'est un phénomène, c'est juste, c'est des comédiens, c'est différent, c'est des magiciens, c'est pas juste des bons comédiens, c'est des gens, on les voit au théâtre, même si on les voit une fois 30 ans après, on s'en souvient.
Et ça s'apprend, c'est... ça, à votre avis?
On peut non, progresser? Non, non, ça s'apprend pas. Parce que ça n'a rien à voir au talent, ça a à voir à l'humain qu'il était.
Ça vous est arrivé qu'on vous dise, en Belgique, par exemple, tiens, vous me faites penser à votre père?
Ouais, parce que heureusement j'ai sa tête, donc ça tombe bien. Non, mais il est. Ouais, qu'est-ce que j'ai appris? Ouais, plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on a en commun? Ouais, je pense qu'on a une sauvagerie en commun.
Ça tombe bien, disons. C'est comme ça qu'on a commencé. C'est avec lui, je crois, que vous avez foulé les planches d'un théâtre pour la première fois. C'était pour Le Petit Prince. Quel souvenir est-ce que vous en gardez de cette expérience à deux?
C'était très, 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 très intense parce qu'en fait, mon père il est venu vivre. Chez nous, quand j'avais 8 ans. Donc, en fait, avant, je le connaissais pas trop. Ouais, y a une longue histoire, mais bon. Et après, ma mère a décidé de retrouver une façon de remettre au travail. Et mon père, il a décidé de faire... Parce qu'il sortait d'un centre psychiatrique à nouveau. Donc, le retour au travail, il voulait faire Le Petit Prince. Et moi, j'avais 8 ans à ce moment-là. Et donc tout à coup, il s'est fait l'idée de faire ce spectacle avec moi. Et là, on a commencé à répéter. Mais comme mon père, à ce moment-là, il était aussi très très absolu, très, je vais pas dire perfectionniste, mais c'était quelqu'un d'être hyper exigeant pour un gamin de 8 ans. Je peux vous dire, c'est fou. Je m'en suis pris des claques.
Vous vous souvenez de tout?
Non, pas tout, forcément pas tout. Ouais, mais une histoire qui est magnifique, je trouve magnifique. En fait, au moment même, elle est hyper triste. Mais quand je la regarde maintenant, je me dis c'est probablement la performance la plus belle que j'ai jamais faite avec mon père. La première, en fait, un mois avant la première, mon père il était en train de replonger dans une psychose maniaco-dépressive. Et ma mère le sentait. Elle se dit putain, il faut qu'on annule la première parce que là ça va partir en sucette. Mais quand mon père il était dans sa partie maniaco de sa psychose, il fallait pas essayer de le changer d'idée. Donc voilà, il persiste et donc la première aura lieu. La première commence. Et pour lui, c'était aussi un retour au théâtre après qu'il s'était retrouvé dans un centre psychiatrique. Et c'était médiatisé, tout ça, comme c'était un grand monsieur en Belgique. Tout était toujours médiatisé, même les choses très très personnelles et très pénibles étaient toujours exposées. Donc c'était son grand retour, le grand retour de Monsieur Chenard, tata. En plus avec un gamin dont on savait pas que c'était son gamin. Allez, vous voyez la bêtise du truc. Mais pour nous, c'était une façon d'être réunis en tant que famille. Et donc la première a lieu, et mon père, le grand grand comédien, que tout le monde veut revoir, il a blackout après blackout, il se souvient pas de ses textes, rien. Et moi je suis là, c'est la première, c'est ma première fois sur scène avec, je sais pas, 1000 personnes en scène, j'ai un petit micro comme ça, mais inconsciemment, ce qui est incroyable, inconsciemment, parce qu'on avait fait tant de répètes, moi je me souvenais de tous les textes de mon père.
Alors vous les avez dit?
Ah mais je l'ai soufflé pendant toute la performance, j'ai soufflé mon père. Mais moi j'essayais juste de l'aider, j'avais rien compris, que j'avais un micro, donc toute la salle elle entend le petit Mathias qui souffle son père et tout ça. Donc on a été massacrés dans la presse. Après, on a forcément, mon père, il s'est dit, ok, d'accord, il y a un truc qui va pas. On a arrêté le spectacle pendant 2 mois. Et après, on l'a repris. Et là, on a décollé. Et là, on a eu des histoires magnifiques. Mais la première, elle est en fait, je pense, en fait, je trouve ça la plus belle. Il y a un truc très, très beau là-dedans.
Ça détermine une vie, ça.
Hein?
Une expérience comme ça.
Ah ouais, absolument, absolument.
Bah alors, on va reparler de vie ensemble avec un morceau que vous avez choisi. C'est une si belle chanson de Violetta Parra qui est chantée ici par Mercedes Sosa. Gracias a la vida, vous êtes sur France Inter avec Mathias Chenard, vous écoutez Boomerang et vous êtes libre.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est un bon morceau, hein. Comme dirait ma tante Anne, on est sur une tendance viking. La blondeur nordique, l'œil fjord, les épaules à toute épreuve. On aurait presque envie de provoquer un tsunami pour qu'il vienne nous sauver. À la nage, dans les airs ou simplement à pied. Il a l'air d'être l'homme de la situation ce matin. D'ailleurs, avec son jogging rouge, sa casquette new-yorkaise rouge et ses tennis, le comédien belge Mathias Schoenaerts, invité de Boomerang pour le très beau premier film de l'ordre de Clermont-Tonnerre, Nevada. Un film où vous incarnez, on le disait, un détenu qui va peu à peu apprivoiser ses pulsions au contact d'un cheval. Et ce qui frappe chez ce personnage, c'est évidemment son rapport au langage, parce qu'il parle très peu. Le texte, Mathias Schoenaerts, quel appui est-ce que ça peut être pour un acteur, pour vous ?
Ça dépend, c'est une façon de s'exprimer. Donc qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le dit et qu'est-ce qu'on retrouve dans le non-dit ? C'est un travail qu'on fait ensemble avec la réalisatrice ou le réalisateur. C'est quelque chose qu'on recherche.
Mais je pose la question, parce que là c'est assez passionnant en fait. C'est vraiment par le corps et par le regard que passent toutes les émotions. Peut-être qu'un corps dit plus que des mots.
Non, je me dis toujours que allez, ça m'a beaucoup aidé quand on est parti aux États-Unis pour rencontrer des prisonniers, spécialement les prisonniers qui se sont retrouvés en isolation pendant beaucoup de temps. C'est quand même un état spécial. C'est pas juste un prisonnier, quelqu'un qui se retrouve en isolation, ça veut dire qu'il est vraiment, il est coupé du monde, il est coupé. Et après quelques temps, voilà, on est même coupé de ses propres pensées, de sa propre voix. C'est un état très, très, très bizarre. Donc, de nature, on devient très, très, très mutique, on devient très silencieux. On est aliéné de soi-même, de son environnement. C'est un état très, 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 très bizarre. C'est quelque chose qui pour moi, était très intéressant à rechercher dans comment exprimer, comment incarner ce personnage.
D'autant plus intéressant que j'ai l'impression que vous êtes un acteur physique. Pour vous, le travail du comédien, il est physique avant d'être cérébral, Mathias ?
Je sais pas, j'ai pas d'idée sur une méthodique précise. J'aime ressentir les choses. Quand je joue, à l'instant que je joue, je veux vraiment avoir un ressenti. Mais après, ce ressenti, il peut être développé à travers les pensées que j'ai eues bien avant.
Qu'est-ce que vous avez compris, par exemple, de votre jeu d'acteur quand vous avez tourné avec Jacques Audiard de Rouillé d'Os ? Qu'est-ce qu'il vous disait, Jacques Audiard ?
Ce que j'ai cru comprendre de la façon dont Jacques travaille, ou de ce que Jacques recherche dans son travail, c'est le principe de base dans toutes les philosophies de jeu, que ce soit Brecht ou Grotowski ou Stanislavski, c'est toujours le principe de base, c'est d'être présent à l'instant, d'être à l'écoute, de rechercher une justesse, une sincérité, une simplicité même, qui n'est pas tellement simple, mais c'est vraiment...
Oui, parce que c'est une construction quand même. Ouais,
ouais, bien sûr, on est très... C'est le paradoxe du comédien, comme Diderot le disait. On doit faire semblant de pas savoir ce qu'on fait, même si on sait très bien ce qu'on fait.
Et alors, quelle construction justement pour ce personnage dans Nevada ? Quel corps, par exemple, est-ce que vous lui avez construit ? Comment il bouge ?
Ouais, c'est un processus que j'étudie, mais en même temps, il y a aussi un truc, en passant du temps, par exemple, en prison, il y a des éléments qu'on absorbe de façon inconsciente. Mais forcément, parce que on sait très bien qu'il faut avoir cette attention. Mais il y a des trucs qu'on prend, il y a et apparemment, je sais pas comment j'ai construit ça, mais j'ai toujours eu un talent de mimétisme. Une voix, un regard, un comportement, comment le corps se tient, c'est des choses que j'absorbe et après je commence à je vais pas dire copier, mais à m'en faire une propre version, un truc comme ça.
Là, c'est un personnage qui a une armure.
C'est vraiment du jeu, en fait. Ouais. C'est le plaisir du jeu. C'est le plaisir d'apprendre des accents aussi. Parce que maintenant, si on en parle comme ça, on dirait que c'est une science hyper compliquée. Le jeu, le théâtre, il faut pas mystifier la chose non plus. C'est vraiment, en fait, c'est ça. C'est l'envie de jouer. C'est comme un enfant. T'es dans ta chambre, tu fais le cow-boy, tu mets ton chapeau. Et pendant 4 heures, t'es le cow-boy. Et t'es très sincère dans ton expérience. Et il y a beaucoup d'humour dans le jeu.
Oui, mais
il
suffit pas d'être sincère.
Non, bien sûr que non. Mais il faut, en fait, c'est un travail d'imagination, en fait. C'est ça. S'il n'y a pas d'imagination chez le comédien, il n'y a rien, je pense.
Et d'émotions. Est-ce que les émotions vous font peur, à vous?
Non. Non, pas du tout.
Qu'est-ce qui vous fait pleurer, par exemple?
Il y a plein de choses qui peuvent me faire pleurer. Quand je suis témoin des petits trucs de tendresse dans la rue, entre famille, une mère et son gamin, des trucs. Ouais, ça peut me... Je vais pas dire pleurer, ça va pas me faire chialer, mais ça peut me toucher, ça peut m'émuer.
Ah, c'est pas grave, on a le droit de chialer, hein, Mathias.
Ah ouais, bien sûr, il y a rien de mauvais.
Et une œuvre d'art? La beauté d'une œuvre d'art?
Ouais, ça peut me toucher énormément, ouais, absolument.
La peinture, vous avez grandi avec, Mathias. Comment il est né ce goût pour la peinture?
Quand j'étais petit, voilà, il y avait des livres de peinture. Et pour moi, c'était, je voyais des livres de Van Gogh, de Clifford Steele, de Egon Schiele. On a ces images autour de soi, on a ces couleurs, ces compositions uniques. Et ça m'a touché, ça m'a inspiré. Et j'avais aucune conception intellectuelle par rapport à ça. C'était juste vraiment... une fascination pour les couleurs, pour les images. Et ça m'a touché, ça m'a toujours, c'est toujours resté avec moi.
Il y a un tableau qui ne quitte jamais vos pensées, qui vous suit depuis toujours, non, que vous avez en tête.
Ouais, il y a certains tableaux de Francis Bacon que j'ai beaucoup aimé. Et je me souviens quand j'étais très petit, je suis parti, c'est l'orangerie où il y a les tableaux de Monet.
Oui.
The Water Lilies. Comment ça, je sais pas comment
les
ça.
Les nymphéas.
Ouais. Et je me souviens, je rentre dans l'espace. Et on regarde le tableau par l'impressionniste Claude Monet et on voit, comment ça s'appelle, l'hélice?
Les nymphéas.
Ah voilà. Et de très loin, on se dit vraiment, ah oui, ils sont blancs. Et le plus qu'on se rapproche, le plus qu'on rapproche, le blanc, c'est juste, je sais pas, il y a une cinquantaine de couleurs qui nous donnent l'impression que c'est du blanc. Et ça, je trouve, c'est presque une leçon philosophique, ça.
Mais c'est une leçon qui est pas très loin de celle que vous nous donniez tout à l'heure sur le métier de comédien, quelque part. Il y a une construction derrière qui est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air.
Ouais, mais après, moi, j'aime bien aussi penser à... Quand on regarde Messi, quand on étudie ce qu'il fait, quand on regarde d'un point de vue scientifique ce qu'il fait, c'est incroyable et c'est complexe. Mais pour lui, c'est du jeu. Il est là et il écoute sa nature et il s'amuse. Et c'est ça. L'étude, c'est pour les autres et nous, on doit s'amuser. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas tourné vers la peinture, Mathias Senart, au sens académique du terme. Vous avez choisi le graffiti. Pour quelle raison, d'ailleurs?
Parce que c'était pour moi, c'était le plus accessible. C'était autour de moi. J'avais des amis qui faisaient ça. En plus, c'était la peinture que je voyais autour de moi. Ouais, ça m'a fasciné. J'ai commencé quand j'avais, je sais pas, 13 ou 14 ans.
La nuit?
Aussi, ouais, bien sûr.
Ce qui est intéressant avec le graffiti, c'est que c'est aussi un art qui s'exprime dans l'illégalité. Il y a le frisson de l'interdit.
Non? Ouais, ça, pour une grande partie de mon expérience, c'était ça. Mais c'était pas forcément ça que j'avais, qui m'excitait. Et après, je sais très bien qu'il y a beaucoup de graffeurs qui vont me dire, ouais, c'est pas vrai. J'ai fait des trucs, j'ai peint des trains, j'ai peint des trucs illégaux, des murs illégaux. Mais c'était pas ça mon kiff, forcément.
La transgression, c'est pas votre truc?
Non, mais l'illégalité, c'était pas forcément mon kiff. Ouais, ça me donne un truc d'adrénaline. Mais c'est pas ça qui m'accrochait à cet art. Non, moi, ce qui m'accrochait, c'était le travail avec les couleurs, le travail avec les dimensions, le travail de composition. Ouais, ça m'excitait. Ça, je trouve.
La création.
Bah ouais, c'est ça qui m'amusait. Après, si c'était illégal ou pas illégal, moi, je m'en fous.
Qu'est-ce qui vous fait frissonner, au bout du compte?
La beauté, mais la beauté. Je pense les choses qui ont une vraie âme. Ça me fait frissonner. Quand je sens que quelqu'un parle et que je sens que ça. C'est du vrai, ou quand je vois quelque chose qui me dit, waouh, ça c'est du vrai, ça c'est, ouais, des choses qui ont une vraie âme, ça me fait frissonner, grave.
Alors merci, Mathias Senart, merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Nevada, de l'or de Clermont-Tonnerre, avec Bruce Dern, Connie Britton notamment, sort mercredi. C'est un film sauvage, puissant, si prometteur pour la suite. Merci à vous, merci à toute l'équipe de Boomerang, aussi Lola Costantini, Valentine Chedebois, Léonard Bio, Pierre Martinerie, Paul Guillotte et Jean-Baptiste Dibert. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers. Juste après ça. plage, Vanessa Paradis sur France Inter.